l'histoire universelle de Marseille. Voici en cet épisode une version sonore du livre d'Alesside Alumbrea sorti aux éditions Agone.
Ça va faire un pain bordélique. Je vous préviens. J'ai aucune méthode de pétrissage.
Il faut que tu sentes le pain.
Faut que je sente le pain, faut que je l'écoute.
Faut que tu l'imagines.
C'est ça.
À l'intérieur.
Cela, franchement, regarde. C'est hallucinant. Ça va pas du tout, quoi.
Ah non, c'est qu'il y a encore du boulot.
Orange. Faut que ça soit comment ?
Complètement homogène. Regarde. Un vrai souci.
Il y a encore de la farine.
Ouais, tu veux que je te remplace ?
Ouais.
Aujourd'hui, le mouvement ouvrier à Marseille.
Ben, disons que jusqu'au 19e siècle, être ouvrier à Marseille, c'était être artisan, quoi. C'était l'essentiel de la production était artisanale. Hein. Donc c'était des manœuvres bons à tout faire, ou des apprentis, ou alors des maîtres artisans, des maîtres ouvriers. Les premières usines qui fonctionnent sur la logique du salariat commencent à apparaître au milieu du XVIIIe siècle.
Est-ce qu'on peut dire qu'à la base, Marseille est une ville populaire, enfin je veux dire comme ça l'est toujours, et que donc l'ouvrier, ou comme tu dis, l'artisan, est un peu la classe sociale la plus représentée dans la ville, la plus importante.
Oui, 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 tout à fait. Mais on a une mutation fondamentale au milieu du 19e siècle, quoi, quand la logique du capital s'empare de la sphère du travail, quoi. Que le salariat se généralise et que c'est la fin de l'atelier artisanal indépendant et la systématisation de l'usine. Donc là, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle le prolétariat ouvrier. Et d'ailleurs, c'est très mal vécu par beaucoup de Marseillais de l'époque. Hein. Toutes les marges de liberté, d'arrangement dont disposaient les gens qui travaillaient dans les ateliers artisanaux disparaissent. Là, l'usine, c'est le régime de la caserne. Quoi. C'est d'ailleurs des bâtiments qui sont plus ou moins inspirés du modèle de la caserne. Quoi.
Qu'est-ce que tu appelles la caserne ?
C'est-à-dire un espace clos, complètement refermé sur lui-même, avec des gardiens à l'entrée, avec une division fonctionnelle... monofonctionnel de l'espace, avec un contrôle serré des présences, des absences, des va-et-vient, avec une discipline qui n'existait pas sous cette forme, en tout cas dans l'atelier artisanal, et avec un modèle d'organisation hiérarchique, l'ambiance un peu de proximité qu'il y a entre le maître artisan et ses apprentis, c'est bon à tout faire dans l'atelier. Là, ça a laissé place à un régime beaucoup plus impersonnel. Attention, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je ne veux pas idéaliser aussi le régime de l'atelier, qui était aussi un régime qui pouvait être très dur pour les ouvriers non qualifiés. Quoi. Et alors, les premières formes de révolte ouvrière, on les voit apparaître assez tôt, puisque dès les années 1780, on a déjà des mouvements de grève dans des savonneries, dans des raffineries de sucre. Et déjà au printemps 1789, déjà une des premières formes que prend la crise sociale sur Marseille, c'est les grèves. Grèves qui seront par la suite interdites par... l'Assemblée constituante, avec la fameuse loi le Chapelier, là, qui date, je crois, de 1790, qui interdit non seulement les grèves, mais aussi les coalitions et rassemblements d'ouvriers. Je justement dans le but de réprimer les jacqueries ouvrières qui commencent à se systématiser. Hein. C'est quand même une révolution qui... C'est quand même les bourgeois qui la font, qui tirent les marrons du feu. Hein. Même si c'est les ouvriers, les paysans qui fournissent l'énergie nécessaire. Mais sur le plan politique, c'est les bourgeois qui ont l'initiative. Quoi. Et donc leur première mesure, c'est d'interdire les coalitions ouvrières. Si on considère qu'au même moment, les corporations ont été abolies, ça veut dire que l'ouvrier se retrouve seul et sans défense.
Ensuite, un petit peu d'huile d'olive.
Un saladier avec de la farine, de la levure
émiettée
et du sel.
Une pincée de sel. On va en mettre plus parce que sinon...
Un verre.
On risque...
Ouais, on risque la déception.
Ouais.
On court à la déception.
Comment tout gâcher, quoi.
Un verre avec des céréales
voilà. Et
des raisins.
C'est le côté expérimental.
Un peu d'huile d'olive. Un petit peu.
Ouais, un petit peu. Allez, encore un petit peu. Voilà.
C'est pas super bruyant, l'huile d'olive dans la farine.
Non.
Il y a l'huile d'olive qui tombe dans la farine, qui fait des petites mares. Des petites rivières, ça débouline. Alors ?
Ensuite, on mélange un petit peu avec la cuillère.
Quand même commencer à mettre un petit peu d'eau. Donc là, tout est redevenu blanc. On peut même quoi ?
Commencer à mettre un petit peu d'eau.
On s'amuse bien.
Là. Voilà.
Ah.
Là.
Alors là.
Voilà.
Et là.
Si on a dû le mettre avant pour que ça gonfle.
Et là.
Pour l'instant, on n'a pas attaqué les mains. Je pense qu'on finit avec les mains.
Alors dans les années 1840, les premières formes, on va dire, un peu d'associations ouvrières, c'est les sociétés de secours mutuels, qui sont apolitiques, hein, qui sont même souvent d'ailleurs patronnées par l'Église. C'est les premières formes un peu de solidarité. Mais à l'intérieur des sociétés de secours mutuels, c'est là que va commencer à germer un peu un discours un peu socialiste, socialisme un peu sentimental, quoi, la Louis Blanc, dans le meilleur des cas, la Proudhon. C'est quand même en juin 1948 qu'on voit pour la première fois le prolétariat ouvrier se manifester de façon autonome. Quoi. C'est-à-dire ne pas être à la remorque de la bourgeoisie libérale, comme c'est encore le cas en 1830, tu vois, mais vraiment se manifester en tant que force autonome.
Là, tu parles au niveau national ?
On peut en parler au niveau européen tout entier. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Marseille. Hein. D'ailleurs, à Marseille, même les journées de juin 48, les barricades de juin 48 précèdent de quelques jours celles de Paris. Sans vouloir faire l'histoire de la révolution de 48, quoi, ben, y a une espèce d'euphorie en février 48, on proclame la République. Les ouvriers à Paris, comme à Marseille ou à Lyon, enfin partout dans l'Hexagone, espèrent que ce serait cette fois-ci la sociale. Quoi. Et il y a quelques mois, on va dire, d'ambiguïté. Et que la bourgeoisie se charge de dissiper en juin 48, notamment par la suppression des ateliers nationaux. Et donc les ouvriers prennent les armes à Marseille. Justement, ils se barricadent dans le quartier là, dont on parlait tout à l'heure, là, derrière la Bourse, qui a été détruit dans les années 1920, le quartier derrière la Bourse. Ils se barricadent là, ils se barricadent aussi vers Castellane, c'est les ouvriers des forges et des ateliers mécaniques de Mempent et du Rouet qui descendent et qui se barricadent à la place Castellane. C'est la première manifestation vraiment de force du prolétariat ouvrier. Ça dure une journée, hein, mais c'est la première fois que les ouvriers prennent les armes en leur nom. Donc voilà, ça c'est la première manifestation. Alors après, bon, c'était la répression de juin 48 fait que beaucoup de gens sont déportés à Cayenne, etc. Et au moment du coup d'état de Napoléon III, là, 3 ans plus tard, il y a des insurrections dans le Var, dans les Basses-Alpes, mais Marseille est déjà sous occupation militaire, et puis de toute façon, tous les gens, disons, les meneurs potentiels, les gens les plus radicaux, sont déjà de toute façon en train de casser des cailloux au bagne, soit ils sont morts sur les barricades, soit ils sont sous surveillance étroite. C'est à partir 15 ans après, vers 1864-1865, que s'organise à Marseille l'Association internationale des travailleurs. Et qui à Marseille est animée par un proche de Bakounine, un mec d'origine corse qui s'appelle Bastelica, André Bastelica. Et ils sont très présents sur les quais, chez les dockers, chez les marins. Ils sont très présents aussi chez les métallos. Ça va être vraiment pour un siècle, ça va être les bastions du mouvement ouvrier marseillais. Quoi. Le port, tout ce qui a trait au port, et tout ce qui a trait à la métallurgie, c'est-à-dire peu ou prou, c'est tout lié au port, puisque la métallurgie navale, la réparation navale, bon. Il y a aussi la métallurgie ferroviaire, la Coderre, les aciéries du Nord, qui sont des bastions rouges. Hein.
L'objectif, c'est de faire une boule compacte.
Ouais.
Mais ça veut dire que. Ouais. Mais au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que tu cherches pas à tout rassembler comme ça.
Non, mais on aurait pu mettre l'eau plus rapidement d'ailleurs. On va incorporer. Ouais, on va attendre encore un petit peu que ça gonfle.
Parce que là, du coup.
Des céréales.
Je fais quoi là exactement?
Pas grand chose en fait, hein. Il faudrait plutôt attendre que ça gonfle.
D'accord.
Parce que si on met trop d'eau ensuite, c'est le piège ça, c'est de mettre trop d'eau, après il faut rajouter de la farine et on s'en sort plus quoi. Donc il faut rajouter juste l'eau mais petit à petit.
Ça va, je m'entraîne.
Sans déborder.
Normalement elle est chaude l'eau, non? C'est plus agréable à pétrir parce que c'est un peu tiède.
Oui mais elle est pas très.
T'as l'impression
elle est
d'une
pas
chair.
Très fraîche là non plus, hein. Ça fait un moment qu'elle est dehors. Je te rajoute un peu d'eau pour pas que tu t'ennuies. Oui, les raisins, s'ils sont pas très gonflés, après, s'ils sont pas trop imbibés d'eau, ils vont cramer. Déjà qu'ils vont cramer.
Un fait important, c'est le congrès ouvrier socialiste de Marseille en 1879. Qui est le premier rassemblement public, on va dire, du courant socialiste. À l'époque, c'est très large. Hein. Ça va depuis les partisans de Bakounine jusqu'aux héritiers de Louis Blanc, en passant par les blanquistes. Ça rassemble pas mal de tendances. Hein. Et ça se tient à Marseille. La première manifestation publique socialiste consécutive à l'écrasement de la commune, après le lever de l'état de siège, c'est à Marseille que ça se tient. Et d'ailleurs, les socialistes marseillais sont très, très fédéralistes, ils ont un discours, ils sont vraiment dans l'héritage spirituel et politique de la commune. Hein. Mais en même temps, on est aussi dans une période d'intense propagande, d'intense bourrage de crâne nationaliste, patriotique, etc. Et c'est vrai que dans les années 80 et 90, on a des manifestations de xénophobie très fortes à Marseille, au sein de la classe ouvrière. Alors que ces manifestations affectent la petite bourgeoisie, c'est assez normal, j'ai envie de dire. Mais qu'elles affectent la classe ouvrière, ou quand même 10, 15, 20 ans plus tôt, on a tout ce discours internationaliste, etc., qui n'est pas qu'un discours, ce sont des actes. Hein. C'est l'époque de l'Association internationale des travailleurs, c'est quand même l'époque où tu as des ouvriers de Marseille qui font des collectes pour envoyer de l'argent pour soutenir des grévistes en Angleterre ou en Allemagne, et inversement. Hein. Encore des choses que je risque pas d'imaginer maintenant. Là, on a vraiment tout un discours. Il y a toute cette propagande, notamment autour du général Boulanger, qui a un discours sur la nation, mais teinté de social. Enfin, ça annonce un peu le fascisme plus tard, quoi. Et c'est vrai que beaucoup d'ouvriers qui sont dans des situations de concurrence avec les Italiens sont sensibles à ça, quoi. C'est clair qu'il y a une organisation de la concurrence sur le marché du travail. Le salariat, c'est défini précisément par le fait que le travail est une marchandise, donc il y a un marché. Qui dit marché dit concurrence. Et donc les patrons marseillais organisent froidement ça, ils le revendiquent même, hein. Ils ne s'en cachent pas. Et donc ça crée des tensions très dures, hein, à travail égal. Un Italien est payé moins qu'un Français, ou alors à salaire égal, il acceptera de faire 2 heures de boulot en plus. Puis pendant longtemps, il ne participe pas aux grèves. Et ça va changer au tournant du siècle, quoi. Le moment vraiment où ça bascule, c'est entre 1895 et 1905. Où là, il y a 10 ans de lutte très dure, dans lesquelles les Italiens rentrent en force. Et ça tombe pas du ciel, hein, c'est que 1898, il y a une vague de répression politique très forte en Italie. Énormément de militants socialistes, anarchistes s'exilent, viennent ici, à Marseille, et font à Marseille ce qu'ils faisaient avant en Italie. Et donc ça porte ses fruits au bout d'un moment. Quand tu penses qu'il y a même un journal en italien, l'Emigrato, un journal révolutionnaire italien fait à Marseille. On n'imagine pas maintenant dans les immigrations maintenant.
Là, ça peut faire une boule déjà. Elle est petite, hein.
Ouais, un petit pain.
Un tout petit pain, ça va bien gonfler. Bon, il y a plein de morceaux aussi, ouais. Avec le raisin et les céréales. Du coup, ça, c'est moins compact. Mais là, c'est pas mal.
On dirait une boule de pétanque.
Ouais.
Et alors Marseille, quand même, il y a un moment très important dans le mouvement ouvrier marseillais, c'est les réquisitions. À la suite des combats de la libération en août 44, il y a pas mal de chefs d'entreprise marseillais qui ont accepté de travailler pour les Allemands qui foutent le camp, ou certains qui sont emprisonnés, quelques-uns qui sont fusillés. Il y a une quinzaine d'entreprises, des grosses boîtes, pour la plupart, des très grosses boîtes même, qui sont réquisitionnées par les ouvriers, enfin, qui travaillent sous contrôle ouvrier, sous le contrôle des ouvriers qui élisent des délégués qui, avec quelques représentants des cadres, des ingénieurs, etc. Bon, c'est des réquisitions, c'est pas une spécialité marseillaise, hein, on le trouve un peu partout dans d'autres villes du sud. Mais la spécialité marseillaise, c'est d'abord l'ampleur du phénomène et ensuite le fait que ça a été coordonné. Il y a carrément un comité de coordination des réquisitions à Marseille. Enfin, il y a une dynamique au niveau de la ville qui est forte et qui pourrait aboutir à quelque chose, à une ébauche de quelque chose d'original, quoi. Mais bon, le discours à l'époque, c'est pas du tout mettre en place l'autogestion ouvrière. Le discours, c'est les nationalisations. Donc De Gaulle et le PC s'entendent sur un certain nombre de secteurs nationalisables. Et les entreprises marseillaises ne sont pas dans le lot. Donc ça traîne en longueur jusqu'au début 47, où il y a une loi qui est votée par un socialiste marseillais, Francis Linhart, puis par une démocrate chrétienne marseillaise, Germaine Poinsot-Chapuis. Parce que les socialistes d'après-guerre, c'est pas du tout les socialistes du Congrès ouvrier de 1879. Ça a beaucoup changé, hein, entre-temps. C'est devenu un parti de petits bourgeois, même pas réformistes. Donc, oui, ils font voter cette loi à l'Assemblée nationale qui ordonne la restitution des usines réquisitionnées aux propriétaires, donc les ouvriers marseillais, après s'être décarcassés pour faire tourner les boîtes, finalement, en espérant que ça allait aboutir à autre chose, se retrouvent avec leur patron d'avant-guerre, quoi. Il y a un film qui a été fait récemment sur ça, d'ailleurs. J'ai pas les références, sinon ça m'aurait plu de les transmettre à la radio. J'ai vu qu'il est pas mal, mais qui est ciblé sur une expérience précise sur les aciéries du nord de la Capelette, qui travaillait, qui est une entreprise avec dans le siège social était à Paris, qui travaillait qui fabriquait des locomotives. Et dans le film, on voit des vieux ouvriers de cette usine, des gens qui étaient jeunes à l'époque, qui ont participé à ça. C'est assez intéressant la façon dont ils en parlent. Et donc là, on a vraiment une dynamique extrêmement forte et originale d'une partie de la classe ouvrière marseillaise, quoi, et qui se trouve court-circuitée, quoi, brutalement, avec plus ou moins l'espoir que le PC va récupérer électoralement cette dynamique, etc. Mais là, on n'est plus dans des logiques de mouvement ouvrier, on est dans des logiques de politique politicienne. Et quelques mois après la fin des réquisitions, on a à nouveau un autre épisode qui montre la force quand même du prolétariat ouvrier marseillais. C'est littéralement l'insurrection ouvrière de l'automne 1947. Quoi. Et là encore, une fois de plus, Marseille se trouve en pointe. Quoi. Se trouve en pointe du mouvement parce que, à partir d'une question très locale, celle du prix des tramways, l'augmentation du prix du tramway qui est refusée par les usagers, ça aboutit à une grève générale, à des affrontements d'une violence extrême, et puis à la prise de possession littéralement de la ville par les grévistes qui organisent des points de contrôle au carrefour, qui contrôlent la circulation. Enfin, le mouvement se répand un peu partout en France. Enfin, pas partout, Paris suit assez peu. Hein, ça répand beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le pays minier, à Lyon, beaucoup. Mais bon, le PC ne veut pas de ce mouvement et le liquide assez vite, quoi. Mais à Marseille, ça va être difficile quand même. Hein. On a pas mal de déclarations de François Bilou, de Maurice Thorez qui trouvent que Marseille a été beaucoup trop loin, quoi. Eux, leur propos, c'est pas de déboucher sur une situation pré-insurrectionnelle. Et pour la deuxième fois, on a l'énergie de la classe ouvrière marseillaise est à nouveau court-circuitée, quoi. Parce que là, on a un mouvement très très fort, qui est un mouvement qui occupe l'espace de la ville, qui reste pas enfermé dans les usines. D'autant que ça part, je veux dire, sur une question qui concerne tout le monde, la question des transports en commun. Et c'est à nouveau court-circuité. Alors après, bon, Marseille s'installe dans la guerre froide. Il y a le fameux épisode de la grève des dockers 1950 contre la guerre d'Indochine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'internationalisme comme internérien, parce que là, on a effectivement une belle manifestation, on va dire, d'internationalisme et de pacifisme, parce que les dockers sont à juste titre révoltés de charger du matériel militaire pour combattre l'insurrection des Indochinois, et tout aussi et encore plus révoltés de décharger des cadavres de petits jeunes qu'on envoie au casse-pipe là-bas. Une grève très très dure, hein, c'est la fameuse grève que Paul Carpita a mis en scène dans le Rendez-vous des quais, film qui sera d'ailleurs saisi à sa sortie en 55. En 55, la donne a changé, la guerre d'Algérie a commencé, là le PC n'est plus du tout sur une position aussi internationaliste. Quoi. Et ça va avoir des conséquences terribles qu'on paye encore maintenant. Hein. Bon, et sur les quais proprement dit, l'échec de la grève de 1950, ça va se traduire par... la CGT mettra exactement 18 ans à s'en remettre. Il faudra attendre 68, avec la grande grève des dockers qui va durer jusqu'à la fin juin, voire même début juillet, pour que les dockers puissent retrouver là une capacité d'organisation, de riposte, de... Pendant 20 ans, les aconiers, les armateurs et la direction du port vont faire la pluie, le beau temps sur les quais.
Qu'est-ce qui les a laminés
Ah ben la grève a été cassée militairement, quoi. On a renvoyé la troupe, on a renvoyé les CRS, les gendarmes mobiles, on a licencié des centaines de meneurs, il y a des tas de gens qui ont été emprisonnés. Je m'en rappelle pas, mais je crois qu'il y a eu plus ou moins des mesures d'état d'urgence parce que c'est lié à la situation. de guerre en Indochine, etc. Non, ça va, ils ont vraiment mis, que ce soit au niveau des armateurs ou au niveau de la chambre de commerce ou au niveau du gouvernement lui-même, ils ont vraiment mis le paquet pour les casser et ils ont cassé. Quoi. Des centaines et des centaines de dockers l'ont payé, se sont retrouvés à la rue et puis ont perdu leur carte de docker.
Alors c'était des grèves pour lutter contre quoi?
Ah ben c'était pour la paix en Indochine, enfin pour l'arrêt de l'intervention militaire française. C'était des grèves de soutien à la libération.
C'était même pas lié à des...
C'est une grève politique.
À des problèmes individuels, quoi, à des conforts individuels.
Non, c'est pas du tout la grève corporative. J'y parlais récemment avec des dockers, là. Enfin, récemment, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était au moment de la première guerre du Golfe, là, parce qu'il y a eu une grève pour bloquer les envois de matériel militaire au Koweït, en Irak et tout. Mais ça n'a pas fait l'unanimité. Et moi, j'ai eu des dockers qui m'ont dit qu'ils n'ont pas fait cette grève, parce qu'ils considèrent que, bon, c'est l'Indochine, c'est différent, parce qu'on a envoyé les gens au casse-pipe et tout, alors que là, c'est différent. Il y a eu une partie des dockers qui ont fait grève, mais une partie qui n'a pas trouvé que c'était aussi justifié que la grève de l'époque, que...
Voilà. On peut dire que c'est pas mal comme ça.
Et maintenant ?
Maintenant, on va rajouter un petit peu de farine.
Où ?
Au fond.
La farine.
La farine. Pour que quand la pâte va lever, pour que ça ne colle pas au plat. La boule va devenir grosse. Poc.
Voilà. On a un chiffon dessus. Non,
on a un chiffon pour pas que l'humidité s'en aille. Un chiffon, il y en a là. Hop.
Voilà. C'est
la une borde. Une borde de la pâte. Soleil et on attend 2 heures.
Mais alors on a quand même aussi un syndicalisme qui est devenu très corporatif, quoi, qui est sur ce discours défense des acquis, etc. qui sonne un peu fou pour beaucoup de gens à Marseille qui vivent dans des situations de précarité totale, qui se reconnaissent pas là-dedans. On a une rupture, on va dire, avec toute une main d'œuvre qui fait des petits boulots au black ou intérim. Précaire, etc. Puis une classe ouvrière qui défend ses derniers bastions, c'est les derniers bastions, hein, la SNCM, tout ça, les quais, qui défend les derniers bastions en voie de liquidation, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a plus du tout cette cohésion et cette dynamique qu'on a après-guerre, où on a une classe ouvrière compacte. Là, on a vraiment une classe ouvrière complètement fragmentée. Je ne sais même pas si on peut parler de classe ouvrière, parce qu'il n'y a de classe que dans la mesure où il y a la conscience de classe. C'est le... On a de plus en plus de gens qui se dirigent vers des boulots qui sont plus du travail ouvrier, mais quelque part... quelque part, le type qui est l'informaticien qui est devant... Qui travaille toute la journée devant son écran d'ordinateur, il subit une autre forme d'exploitation. Hein. Il ne faut pas croire, c'est pas que des cadres sup dans l'informatique. Tu as toute la piétaille des travailleurs de l'informatique qui sont des exploités, quoi. Mais qui n'ont pas cette
position
immédiate qu'avaient les ouvriers. Dans l'espace de l'usine, quoi.
Tu veux dire que le monde ouvrier s'est généralisé, quoi, finalement.
Ah ben, le régime du salariat, c'est généralisé, ça c'est sûr. Par contre, si tu veux, les ouvriers n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est le milieu ouvrier qu'on a fait disparaître. Et on a fait disparaître partout les lieux où il pouvait y avoir des masses d'ouvriers. C'était difficile, même avec les logiques d'institutionnalisation du mouvement ouvrier d'après la Seconde Guerre mondiale, avec plus ou moins avec l'officialisation des syndicats qui deviennent plus ou moins des co-gestions, des forces de co-gestion du marché du travail. Même avec ça, c'était quand même jamais très facile. La classe ouvrière portait en elle-même, disons, de façon presque inhérente, la contestation du système d'exploitation. Alors là, on est dans le monde du travail maintenant est un monde extrêmement atomisé. Et en plus, dans pas mal de secteurs, notamment tout ce qui a trait à l'industrie des loisirs, du divertissement, du tourisme, de la culture, tout ça, on a en plus, avec toute cette façon de faire participer le salarié quelque part à sa propre exploitation, tout ça emballé dans une espèce de discours fun, on est des créatifs, etc. Je dis qu'on demande les intermittents du spectacle, une grande partie des intermittents du spectacle, c'est des techniciens, c'est des gens qui... c'est des ouvriers, quoi. C'est des mecs qui bossent, qui cambalent du matos, qui ont des horaires impossibles. Je dirais que c'est des ouvriers. Peut-être pas au sens strict, si on entend par ouvrier quelqu'un qui fabrique quelque chose. Mais bon, si on va par là, le docker n'est pas un ouvrier, alors puisqu'il ne fabrique rien.
La différence, c'est qu'il peut choisir son employeur, a priori.
Ouais. Oui, mais bon, tu sais, c'est des marges de choix qui sont très relatives, vu les conditions qui règnent actuellement sur le marché du travail. C'est une liberté très, très illusoire, quoi. Mais les boulots actuellement, le monde du travail à Marseille, bon, alors évidemment, il y a la fonction publique qui est le plus gros employeur, quoi. Et on le voit, hein, les grandes manifs à Marseille, c'est la fonction publique. Hein. C'est l'éducation nationale, les hôpitaux, la SNCF, c'est là que tu as des grandes mobilisations. Sinon, après, c'est toute une population, je dis, de travailleurs, soit extrêmement précarisés, voire carrément clandestins, qui n'ont pas tellement de possibilités d'action, soit tous ces secteurs-là que j'ai indiqués, là... Oula... Ah, c'est la fin, ça sonne, c'est la fin de mon laïus.
C'est la fin de la séance, entendu.
J'ai assez parlé. Et d'ailleurs, ça se clôture sur la situation actuelle. Non, un des gros mouvements qu'il y a eu sur Marseille, c'est les chômeurs en 98. Hein. Mais c'est pareil, c'est des mouvements qui sont sans grand lendemain, quoi. Le mouvement des chômeurs, c'est beau, petit à petit, mais, démobilisé, affaibli, a perdu de son ampleur au fur et à mesure des années. Maintenant, il est devenu quasiment inexistant. On peut même pas dire... c'est pas des mouvements qui s'inscrivent dans la durée, quoi. Ça repartira probablement, hein, surtout si les promesses électorales... Si Sarkozy tient ses promesses électorales, lui, contrairement à la gauche, il va les tenir. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas à nouveau des mobilisations de chômeurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout dans les mêmes conditions, parce que là, on a c'est une population complètement atomisée, éparpillée, quoi. Et moi, je disais, de toute façon, quand il y a eu le mouvement des chômeurs à Marseille, c'était la chose la plus forte qu'on ait fait contre la montée du Front National. Il ne faut pas oublier qu'il y a même beaucoup de chômeurs qui votaient Front National. Hein. Ils ont des discours... Disons que là, avec le mouvement des chômeurs, on a un autre regard, quoi. C'est plus le voisin d'à côté, l'immigré qui est le responsable de sa propre situation de détresse sociale. Là, on est enfin capable de nommer l'ennemi. Quoi. Celui qui nous a mis à paillole, hein, qui nous a plongé dans la misère. Disons, ça générait une autre dynamique, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, elle est très éphémère. Hein. Et peut-être que par nature, un mouvement de chemin ne peut être qu'éphémère. Peut-être aussi que le but, c'est plus forcément d'arriver à à créer des institutions corporatives, type les syndicats tels qu'ils ont été institutionnalisés après-guerre, quoi. Peut-être que justement aussi la réalité du capitalisme d'aujourd'hui, avec la flexibilité, la mobilité et du capital et de la main d'œuvre, fait que d'autres formes d'organisation et de lutte, beaucoup plus elles-mêmes mobiles, flexibles, plus en réseau, plus horizontales et moins verticales, vont apparaître. En tout cas, on peut le souhaiter.
Merci, Alessi.
De rien.
À demain.
À demain, Annie.
C'était Alessi Dallumbria, l'auteur de l'Histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000, sorti aux éditions Agone. Demain, Alessi continue de nous raconter la ville, à la même heure, à 10h du matin. Ce sera autour de Marseille et le négoce, du Foundoung du Moyen-Âge jusqu'au Trabendo algérien. À demain. Thank you.
de fene coche Dormamo do codina Bende fele coco Ina coina ye Felenko he 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 Ay te pelon de na Ay te pelon de na ma 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 Ay te pelon de koina Ay te pelon de koina